France Culture.
Précisément 18h sur Culture, le journal Julie Paco. Bonsoir Julie.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Le jour d'après, au Venezuela, après la chute de Nicolas Maduro, capturé puis exfiltré par les États-Unis, où le président vénézuélien doit y être jugé pour narcoterrorisme, nous irons à Caracas, où ses partisans s'organisent, alors que la vice-présidente, autre figure du chavisme, vient d'être nommée présidente par intérim. Puis à Washington, où l'administration Trump se dit prête à travailler avec les responsables vénézuéliens, mais en posant plusieurs conditions. Quant au motif de cette opération américaine, ce n'est pas tant la lutte contre le narcotrafic que l'or noir et les intérêts pétroliers que convoite Donald Trump, qui considère que le pétrole vénézuélien appartient aux États-Unis. Enfin, nous irons en Iran, où le chef de la police annonce ce soir l'arrestation de plusieurs leaders des manifestations, une semaine après le début du mouvement de contestation contre la vie chère. Quel avenir désormais pour les Vénézuéliens? Au lendemain de l'enlèvement de leur président Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines, la Cour suprême vénézuélienne a ordonné à la vice-présidente Delcy Rodriguez d'assurer l'intérim du pouvoir. Le gouvernement bolivarien se remet peu à peu et s'organise pour les jours à venir. À Caracas, les partisans du président déchu réfléchissent à la suite. Bonsoir Alice Campagnol.
Bonsoir Julie.
En direct de Caracas pour France Culture, où vous avez assisté à un rassemblement chaviste.
Oui, je me trouve actuellement à un rassemblement de partisans du gouvernement. Ils sont en train de se rassembler à l'appel de la vice-présidente Delcy Rodriguez, qui va prendre la tête du pays en remplacement donc de Nicolas Maduro. Ici, donc, les partisans du gouvernement cherchent à montrer leur force, cherchent à montrer qu'ils ne se rendront pas. Ils sont un peu désespérés de l'enlèvement de leur président, mais veulent montrer donc qu'ils sont toujours bel et bien présent. Il y a aussi dans les rues beaucoup de groupes paramilitaires qui rôdent en moto, armes automatiques à la main. Ils cherchent à impressionner la population et à faire taire évidemment toute voix dissidente. En tout cas, j'en ai croisé beaucoup aujourd'hui et donc les opposants restent terrés chez eux et préfèrent faire profil bas.
Alice Campagnol à Caracas pour France Culture, tandis qu'aux États-Unis, cette opération spectaculaire des forces spéciales fait couler beaucoup d'encre et de critiques chez les élus, en particulier démocrates. Car le Congrès américain, censé donner son autorisation en cas d'action militaire à l'étranger, comme le prévoit la Constitution, n'a été ni informé ni consulté. Alors après la sidération d'hier, l'administration Trump doit désormais répondre aux questions. Et Gwendal Lavina, c'est Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui est en première ligne.
Les élus républicains affirment que l'intervention à Caracas pour l'interpellation de Nicolas Maduro et sa femme relève d'une procédure judiciaire. Ce n'est donc pas un acte de guerre qui nécessiterait l'aval du Congrès. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, est aussi revenu ce matin sur ce que les États-Unis entendent par diriger le Venezuela.
Ce qu'on contrôle, c'est la façon dont le pays va évoluer. Et nous avons des moyens de pression que l'on utilise déjà et que l'on va continuer à utiliser. Ils ne peuvent plus stocker de pétrole et dans quelques semaines, ils devront arrêter d'en produire. Tout cela restera en place tant que les gens au pouvoir dans le pays ne procéderont pas à des changements qui ne sont pas seulement dans l'intérêt des Vénézuéliens, mais aussi dans l'intérêt des États-Unis et de ce qui nous tient à cœur.
Chris Murphy est sénateur démocrate du Connecticut. Pour lui, l'arrestation de Nicolas Maduro et la prise de contrôle du Venezuela n'a pourtant rien à voir avec la sécurité du pays.
Il semble que c'est surtout pour le pétrole et les ressources naturelles. La politique étrangère de Donald Trump est corrompue. La Russie, le Moyen-Orient et maintenant le Venezuela, c'est pour que ses amis fassent de l'argent, pas pour notre sécurité.
Et plusieurs élus démocrates de souligner que des entreprises américaines sont déjà en train de préparer des voyages d'affaires au Venezuela pour tenter de s'y implanter rapidement.
Alors Donald Trump ne s'en cache pas. Après cette arrestation de Nicolas Maduro, le président américain entend exploiter les vastes réserves pétrolières dont regorge le Venezuela, les plus importantes du monde. Mais la production s'est progressivement effondrée, passant de 3 millions de barils quotidiens dans les années 70 à moins d'un million aujourd'hui. Voilà pourquoi les compagnies américaines vont désormais investir pour réparer les infrastructures, ambitionne le président américain, qui considère donc ses ressources comme acquises, et ce, là encore, valant à grille, sans aucune base légale.
Cette saisie par la force du pétrole vénézuélien s'inscrit dans un récit états-unien selon lequel Washington aurait été dépouillé par le chavisme.
Les Vénézuéliens ont saisi unilatéralement le pétrole américain, des actifs et des plateformes américaines, ce qui nous a coûté des milliards de dollars. Nous avions bâti l'industrie pétrolière vénézuélienne avec du talent, des convictions et des compétences américaines. Et le régime socialiste nous l'a volé. Nous l'a volé de force.
En réalité, Caracas cède 98% de ses réserves dans les années 20, sous l'impulsion de son dictateur de l'époque, Juan Vicente Gomez. Puis c'est progressivement et légalement que le pays va reprendre la main. En 43, il exige un partage des profits, 50-50. Puis il crée en 76 la compagnie nationale. Les pétrolières doivent alors s'allier à elle pour continuer à forer, ce que réaffirme Hugo Chavez en 2007. Et c'est parce qu'ExxonMobil et ConocoPhillips ne trouvent pas d'accord à l'époque qu'elles sont chassées du pays. Des tribunaux d'arbitrage privés leur ont en outre accordé des compensations, 2 milliards de dollars à Exxon, 11 pour Conoco en 2018 et 2019. Et ce sont les sanctions américaines qui empêchent leur paiement par Caracas en asséchant les revenus du pays. Ne reste sur place que Chevron, autorisé à transporter mais pas à produire. Son patron Mike Verse se montrait en décembre très confiant pour l'avenir, expliquant se projeter à long terme dans le pays. Mais reste encore à relancer en pratique la production, car dans un passé proche, les puits irakiens ont mis 12 ans à se remettre de la guerre, quand la Libye produit toujours 30% de moins qu'avant la chute de Muammar Kadhafi.
Et après cette opération américaine, des milliers de personnes se sont rassemblées devant l'ambassade des États-Unis à Madrid aujourd'hui pour dénoncer une agression impérialiste de la part d'un président américain qualifié d'agresseur et représenté sur des pancartes avalant des bidons de pétrole vénézuélien. Plusieurs membres du parti de gauche radical Podemos et du parti communiste espagnol ont participé à cette manifestation. La gauche, qui en France a dénoncé la réaction bien tardive d'Emmanuel Macron hier soir. Le chef de l'État a dit prendre acte de la fin de la dictature de Maduro, dont le peuple vénézuélien ne peut que se réjouir, a-t-il écrit dans un tweet relayé ensuite par la Maison-Blanche. Une position qui nous fait honte, estime Jean-Luc Mélenchon, quand Olivier Faure juge que le président se comporte comme un simple porte-parole de la Maison-Blanche. Car Emmanuel Macron n'a pas eu de mots sur l'attaque américaine et la violation du droit international. Une réaction aveugle, inconsciente des réalités et irresponsable, tacle l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. La situation au Venezuela, vous y revenez dans Soft Power, Frédéric Martel.
Absolument, nous serons avec Isabelle Lasserre, grand reporter au Figaro, et puis en direct aussi de Caracas.
18h07 sur France Culture et une semaine après le début des manifestations en Iran initiées par les commerçants de Téhéran contre l'inflation et la vie chère qui se sont rapidement propagées dans une trentaine de villes du pays. Le chef de la police annonce ce soir l'arrestation de plusieurs leaders de la contestation. Siavosh Ghazi.
Ce dimanche à Téhéran, les forces anti-émeutes ont été largement déployées, notamment devant le bazar, mais aussi devant deux centres commerciaux spécialisés dans la vente de téléphones portables, où un petit groupe a tenté de manifester à la mi-journée. Deux autres petites manifestations ont eu lieu dans la capitale, qui ont été vite dispersées. En province, une foule importante a participé aux obsèques de trois jeunes tués la veille dans la petite ville de Malek Shahi, située à la frontière avec l'Irak. Le chef de la police a annoncé de son côté l'arrestation d'un nombre important de manifestants qui jouaient le rôle de leaders dans les rassemblements, mais aussi de personnes qui incitaient sur les réseaux sociaux les gens à manifester. Selon les médias, une quarantaine de personnes ont été présentées à la justice. Depuis le début du mouvement, il y a une semaine, au moins 100 personnes ont été arrêtées à travers le pays, selon les médias officiels. Hier, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a clairement distingué les commerçants qui ont des revendications légitimes, selon lui, de ceux qu'il a qualifiés de fauteurs de troubles, agents de l'étranger, contre lesquels le pouvoir agira.
Siavosh Ghazi, correspondant de France Culture à Téhéran, et ses manifestations en Iran auraient fait au moins 16 morts, d'après les organisations de défense des droits humains. En France, le gouvernement tente toujours d'éteindre la colère agricole alimentée par la stratégie sanitaire prônée par le gouvernement face à la dermatose nodulaire contagieuse et la signature du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur prévue le 12 janvier prochain. Alors que le Premier ministre doit rencontrer les syndicats agricoles en début de semaine, le gouvernement annonce la suspension prochaine d'importations en provenance d'Amérique du Sud de denrées alimentaires contenant des résidus de plusieurs substances interdites en Europe. Mais pour Marine Colli, consultante spécialiste des politiques agricoles, il n'y a pas de nouvelles garanties, c'est plutôt un effet d'annonce.
quand on s'attaque à cette question de la concurrence déloyale simplement à travers la présence de résidus ou non dans les produits, on est complètement à côté de la réponse attendue par les agriculteurs. L'absence de résidus ne veut pas dire du tout absence d'utilisation par les agriculteurs des pays tiers. Sur les pesticides, si on voulait vraiment lutter contre la concurrence déloyale, il faudrait s'assurer effectivement que le pesticide interdit chez nous, les Brésiliens ne l'utilisent pas. Je donne un exemple, l'atrazine, c'est un herbicide interdit depuis 20 ans. Ils peuvent tout à fait l'utiliser. On importe d'ailleurs beaucoup de maïs ou de soja traité avec de l'atrazine. Et même si on le contrôlait et même si les produits arrivaient sans résidus, encore une fois, ça n'engageait pas un changement de pratique de la part des agriculteurs brésiliens. Donc, si la mesure elle est présentée comme un pansement pour minimiser l'impact de l'accord avec le Mercosur, là, clairement, je pense que ça peut même mettre de l'huile sur le feu et attiser encore un peu plus la colère des agriculteurs.
Des propos recueillis par Édouard Barouet pour France Culture. La météo avec 7 départements de la Bretagne et de la Normandie placés en vigilance orange pour neige verglas. Les flocons tomberont dans la nuit et la neige tiendra au sol au réveil demain. Des précipitations que vous retrouverez demain matin en Île-de-France, puis des pays de la Loire à la Champagne-Ardenne. Et sur le reste du pays, la matinée restera glaciale avec de fortes gelées et des brouillards givrants, excepté sur le pourtour méditerranéen. Les températures minimales seront comprises entre -7 et -2 degrés.